Oui. Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Donc vous savez qu'aujourd'hui on est là pour discuter autour des livres d'Éric Massé, L'après-patriarcat, qui est paru au Seuil, je pense que c'était en mars 2015, hein, il y a quelques semaines. Voilà, Éric Massé est professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux et directeur adjoint du centre Émile Durkheim. Alors c'est un livre, me semble-t-il, qui ambitionne de repenser ce qu'Éric appelle les arrangements de genre dans la période contemporaine, hein, c'est, je pense, l'objet du chapitre 4 et l'idée peut-être principale du livre. En tout cas, l'introduction, hein, commence d'emblée là-dessus, c'est-à-dire comment comprendre les contradictions de notre époque qui sont marquées, nous dit-il, par un principe d'égalité, nous dit-il, authentiquement partagé entre les hommes et les femmes, on pourra en discuter, donc principe voilà, qui serait moteur dans les sociétés, et en même temps, fabrique collective d'inégalités, c'est ce qu'il appelle, hein, les tensions de la pré-patriarcat, donc cette tension entre, on se rallie à l'idée de l'égalité, et en même temps, cette fabrication continue d'inégalités à cause de socialisation différenciée. Donc c'est un livre vraiment, je pense, qui cherche à repenser les arrangements de genre, donc le genre, hein, l'organisation sociale de la différence des sexes, un concept en sciences sociales, alors je sais qu'on en a beaucoup parlé dans l'espace social, en sciences sociales, un concept, hein, qui vise à dire, voilà, la différenciation entre les femmes et les hommes, entre ce qui est construit socialement comme masculin et féminin, différenciation et hiérarchisation. Et je pense que ce qui est assez ambitieux dans le livre, c'est d'être dans une perspective d'évolution, de rendre compte des transformations en cours, en proposant des outils pour comprendre ces transformations. Et on en reparlera, hein, parce que c'est le cœur du livre et des chapitres, le patriarcat traditionnel, le patriarcat moderne et ce qui serait l'après-patriarcat. Alors, ce faisant, Éric Massé prend position, hein, d'une part, dans un débat bien entamé en sciences sociales sur la pertinence des théories de la domination. Est-ce qu'il y aurait, voilà, comme ça, théorie de la domination avec un point de vue structuraliste, avec l'idée d'une reproduction des dominations. Et donc Éric Massé, hein, a une perspective tout à fait critique par rapport à cette reproduction, aux conceptions de la domination qui empêcherait de penser le changement. Et lui se propose, hein, justement de penser les transformations en cours en recourant plus volontiers au concept de pouvoir. Donc je pense que ça, ce serait un débat important. Quel est l'intérêt de penser en termes de pouvoir plutôt que de domination ? Première prise de position, et deuxième autre prise de position qui peut être considérée d'un certain point de vue, hein, comme peut-être un peu polémique, c'est-à-dire cette notion même de après-patriarcat. Donc peut-être rappeler que le patriarcat, hein, est très important dans le féminisme de la seconde vague, l'importance de Christine Delphi, qui voilà, a pensé ce concept et puis vraiment qui a eu des effets majeurs, hein, dans le féminisme de la seconde vague. C'est-à-dire, donc, ce livre sur l'ennemi principal, hein, en deux tomes, et puis un article préalable où elle se proposait de faire l'économie politique du patriarcat. Et il s'agit, hein, de dire qu'à côté du système d'exploitation capitaliste, hein, pour aller vite, il y a un système d'oppression spécifique en direction des femmes, notamment à travers l'extraction de leur travail domestique, travail gratuit. Et par ailleurs, l'approche, hein, de Christine Delphi est ce qu'on appelle une approche matérialiste, c'est-à-dire très centrée sur les pratiques. Donc, Éric Massé, hein, prend bien soin de dire, attention, l'après-patriarcat, ce n'est pas un monde qui est débarrassé du patriarcat, ce n'est pas comme une page qui se tourne, on est dans les conséquences du patriarcat, mais on sortirait, ou on serait en train de sortir du patriarcat, mais pour autant, ce n'est pas du tout un monde heureux ou apaisé. Donc c'est l'idée, hein, des contradictions de l'époque contemporaine sur laquelle j'ai commencé, avec, hein, cette idée en gros d'un gros malaise dans le genre aujourd'hui. Alors je vais essayer de détailler un peu mieux. Donc c'est un livre en 5 chapitres. Il faut redire que c'est un essai, hein, c'est-à-dire que contrairement au livre précédent d'Éric Massé auquel qu'il avait co-dirigé Pourquoi moi, qui était basé sur des enquêtes, hein, voilà, c'est un livre qui ne mobilise pas d'enquêtes nouvelles, qui mobilise des travaux existants de différentes disciplines, et donc qui est structuré en 5 chapitres. Le premier chapitre, justement, porte sur penser les arrangements de genre. Donc c'est là où Éric Massé pose un certain nombre, hein, de notions, et notamment, hein, des éléments de définition importants sur le patriarcat. Et donc, il nous dit, le patriarcat, on peut le considérer comme un arrangement entre les sexes qui est caractérisé par une mise en asymétrie nécessaire et légitime du masculin et du féminin. Donc une mise en asymétrie nécessaire et légitime du masculin et du féminin. Et donc c'est là où ils discutent en particulier les théories de la domination et peut-être leur conception trop fixiste qui ne permettrait pas, d'après lui, ça c'est je pense un élément de discussion important, de penser le changement et les reconfigurations en cours. Dans un deuxième chapitre, donc, Éric Massé développe plus précisément le modèle du patriarcat traditionnel. Patriarcat traditionnel, nous dit-il, percuté par la modernité. Donc là, c'est là où sont mobilisés dans ce chapitre plein de travaux d'anthropologues et où ils nous montrent comment cette mise en asymétrie nécessaire et légitime du masculin et du féminin est percutée par la modernité, c'est-à-dire les idées de science, de raison, de politique qui organise la société, et donc percutée dès le XVIe siècle. Ce qui caractérise le patriarcat traditionnel par rapport au patriarcat moderne, dit-il, c'est que cette mise en asymétrie, elle est fondée sur Dieu et toute une cosmologie autour de Dieu. Continuant, donc vous voyez, c'est un livre aussi donc, qui décrit des évolutions pour comprendre les contradictions contemporaines. Et donc le chapitre 3 continue en quelque sorte cette description des évolutions pour envisager le patriarcat moderne. Le patriarcat moderne donc, qui n'est pas caractérisé par une remise en cause de l'asymétrie entre le masculin et le féminin, mais cette asymétrie est fondée sur d'autres raisons. Donc il ne s'agit plus d'une mise en asymétrie fondée sur Dieu, mais fondée sur la nature, donc cette réinvention de l'idée de la nature si prégnante dans la conception des révolutionnaires en 1789 et conception de la nature qui finalement donne tout un pouvoir aux scientifiques pour interpréter cette nature et donc une mise en asymétrie patriarcat moderne fondée sur la nature et la science pour aller vite. Mais ce qu'il nous montre aussi c'est que la modernité finalement c'est l'idée que les individus sont libres, sont égaux et sont des individus débarrassés, en voie d'être débarrassés comme ça des pesanteurs, notamment liées à la religion. Et cette idée d'individus libres et égaux, évidemment, entre en contradiction avec l'idée d'une mise en asymétrie des hommes et des femmes, justement, il ne parle pas d'une mise en asymétrie des hommes et des femmes, mais du masculin et du féminin. Des contradictions, dès lors, patriarcat moderne emprunt contradiction, et le rôle du féminisme, des mouvements féministes, c'est justement d'avoir dénoncé ces contradictions et en quelque sorte d'être venu à bout. Donc il y a une sorte, je trouve, en creux de salut des mouvements féministes qui ont dénoncé ces contradictions du patriarcat moderne et du coup ont fondé les fondements de sa légitimation. Et on serait rentré donc dans une troisième période que Éric Massé situe seconde moitié du XXe siècle. Seconde moitié du XXe siècle, qu'on pourra discuter, je pense, et qui nous dit ce qui caractérise l'après-patriarcat, c'est donc justement qu'il n'y a plus de mise en asymétrie nécessaire et légitime du masculin et du féminin. Donc je vous invite peut-être d'ores et déjà à réfléchir à cette idée-là. Est-ce que on peut y adhérer si facilement que cela ? Et donc, du coup, l'idée d'une hiérarchie entre les genres, qui est quand même centrale dans la définition du genre, ne tiendrait plus dans nos mentalités, dans nos représentations, etc., ne tiendrait plus dans cette société comme ça d'individus ralliés à la cause égalitaire. Mais pour autant, c'est pas du tout un monde apaisé. Il y a, je trouve, un grand malaise dans le genre. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment les descriptions contemporaines, les passages les plus convaincants du livre. Parce que je pense qu'il faut aussi rappeler que Éric Massé est un spécialiste des médiacultures et des discriminations. Et donc c'est là où je pense qu'il mobilise le plus ses travaux en propre. Et évidemment, quand on critique la domination et l'approche matérialiste pour, en quelque sorte, se référer à une approche plus foucaldienne sur les représentations, les discours, etc., on voit tout le rôle des cultures contemporaines et qui produisent donc des tensions dans l'après-patriarcat. Je cite par exemple page 79, « Pour aujourd'hui, tension forte, les formes d'organisation sociale et les représentations culturelles sont partiellement héritières d'une différenciation culturelle et d'une division genrée du travail, de la famille et des organisations également d'origine patriarcale. Cette mise en asymétrie n'est plus nécessaire ni légitime, elle demeure souvent utile en raison des bénéfices pour la plupart des hommes et des employeurs, de la division genre et du travail et des discriminations sexistes. Donc voilà, il s'agit bien d'une individuation paradoxale. On a des individus qui sont égaux. Peut-on être égaux dans la différence? C'est toute tout le problème. Et il y a donc une sorte de malaise parce que les stéréotypes, notamment tels qu'ils sont constamment réactivés par les producteurs de la consommation, renvoient tout un chacun à des rôles genrés et donc une certaine, effectivement, un certain malaise dans le genre. Et l'organisation sociale elle-même continue à produire des différenciations inégalitaires. D'où le paradoxe, en quelque sorte, quand même, entre les idées et les faits qui sont assez bien décrits. Et c'est particulièrement vrai, je trouve qu'il y a des très bons passages de ces tensions dans le genre, dans la parentalité et la conjugalité, donc qui sont les domaines les plus tendus. Donc je voudrais retrouver quelques citations, alors moi qui m'ont beaucoup parlé par rapport à la subjectivation, etc. J'ai trouvé que voilà, quand on a l'impression de lire ce qu'on pense, ce qu'on vit, etc., on se dit toujours que bon, l'analyse sociologique doit être convaincante. Et il parle notamment, je pense, dans ce devenir égalitaire, me semble-t-il, de l'ambivalence des femmes, c'est-à-dire les dilemmes d'un rapport au genre qui ne veut rien lâcher de l'articulation entre égalité et différence, différente comme femme, mais pareille aux hommes sur tous les plans, tout en connaissant les conséquences inégalitaires de se revendiquer comme femme. Et par ailleurs, sur le devenir homme aujourd'hui, ce que Éric Massé appelle l'après-patriarcat. Donc ce devenir homme est marqué moins par l'ambivalence que par une ambiguïté. Ambiguïté qui permet de jouer sur tous les tableaux sans avoir à s'engager dans un sens ou dans un autre. Et je trouve qu'il y a aussi des passages très convaincants, mais qui mobilisent d'autres travaux d'Éric Massé, sur la manière dont on produit des jeunes hommes aujourd'hui. On produit quand même l'autorisation d'un égocentrisme tranquille et la manière dont aujourd'hui on produit des jeunes femmes qui sont encore et toujours un peu empêtrées dans ce qu'elles croient être un relationnel ou une mise en relation des uns et des autres tout à fait incontournable. Voilà, et donc de ces tensions, contradictions, je ne sais pas si je les ai bien restituées, on pourra en reparler. Éric Massé propose non pas une fatigue d'être soi, mais quand même une sorte de fatigue dans le genre, une fatigue du genre en ce moment. Et il évoque même, je sais pas si c'est une notion ou quoi, mais quelque chose d'assez à la fois drôle et significatif, c'est-à-dire un burn-out de genre, donc il a emprunte à la psychologie sociale, voire même d'un burn-out parental. Et donc il me semble, même s'il y a une mise en équivalence là, et du masculin et des féminins, que ça concerne quand même davantage les femmes, l'épuisement des femmes, la double journée des femmes, ce temps extrêmement contraint. Et pour terminer, simplement, j'ai peut-être un peu trop parlé, mais que le prix à payer de la féminité conduise à un excès de charge mentale, de culpabilisation et à la dépression, ou bien que le prix à payer de la masculinité conduise à du handicap émotionnel, à des conduites à risque, à des comportements suicidaires ou à la violence, c'est dans tous les cas à une individuation impossible que sont confrontés les individus, coincés qu'ils sont par des injonctions et des contraintes auxquelles ils ne trouvent de solution biographique que par la rupture pathologique, je vous rassure, pour les cas les plus extrêmes. Voilà. Et enfin, le dernier chapitre est consacré à un décentrement du regard européen et occidental sur des sociétés extra-européennes, notamment des sociétés musulmanes, ou par rapport peut-être à la vision dont on peut avoir de certains pays, on a l'impression que notre patriarcat, au contraire, se reproduit et revendiqué dans une espèce de mouvement constamment réaffirmé, il envisage au contraire la manière dont ces sociétés elles-mêmes sont percutées, notamment par un féminisme musulman, et donne lieu donc aux arrangements composites dans différentes sociétés. On pourra y revenir. Voilà. Donc je me propose, si vous voulez, de lancer la discussion, et puis bien entendu de vous laisser ensuite la parole. Peut-être Éric, première réaction sur cette présentation, tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Ça te convient? J'ai oublié des passages importants peut-être?
Non, ça fait toujours bizarre de se faire raconter un livre. Il est très court ce livre, il fait 150 pages, parfois j'écris compliqué ou trop compliqué, mais l'idée quand même c'était de faire un bouquin qui soit aussi... le genre pour les nuls, parce qu'on a eu tellement de discussions et de propos tellement tordus ou mal informés sur ces questions-là. Donc C'est aussi un petit traité de sociologie sur le genre. Et puis, la sociologie, elle doit servir quand même à essayer de comprendre ce qui nous arrive, pour le dire simplement. Et il me semblait que sur les questions de genre, ce n'était pas évident. Et notamment, ce qui me frappe, en fait, c'est que ce paradoxe que tout le monde peut constater, enfin, ce constat que tout le monde peut faire, que c'est vrai qu'on est dans une société qui se prétend égalitaire. Ce n'était pas le cas il y a 60 ans encore. Et ce n'est pas le cas dans la plupart du reste du monde. Donc ça, ce n'est pas rien. Voilà. Et qu'en même temps, tout le monde constate qu'on continue à avoir des inégalités. Cette observation, moi, j'étais frappé par le fait qu'il y a trois types de discours dominants que ça n'étonne pas. Le premier type de discours, c'est les gens qui pensent qui font un raisonnement naturaliste, et qui disent, bon, ben, c'est bien la preuve que s'il y a des inégalités alors qu'on est soi-disant égalitariste, c'est bien la preuve qu'il y a de telles différences naturelles de sexe entre les hommes et les femmes que c'est bien la démonstration qu'il y a une cause naturelle à tout ça. Donc ça ne les étonne pas qu'on continue à avoir des inégalités parce que les filles et les garçons, ce n'est pas pareil. Voilà. Donc une espèce de preuve par l'absurde. Deuxième type de discours que ça n'étonne pas, ben, c'est ce que j'appelle les féministes égalitaristes qui sont aujourd'hui conservatrices, c'est-à-dire qui pensent que l'essentiel de l'effort a été fait, que le féminisme a gagné en droit, ce qui est tout à fait vrai, avec une rupture alors vraiment historique sur cette question-là. Et elle pense que ce que nous vivons là, compte tenu de l'avancée des choses, etc., c'est des résidus. C'est un résidu d'un patriarcat qui... Voilà. Mais qu'au fond, on peut même calculer l'année, à partir de quand tous les conseils d'administration seront paritaires, etc. Donc au fond, c'est comme s'il y avait un char de l'histoire. Voilà. Donc ça ne les étonne pas qu'il y ait encore des inégalités, parce qu'elles sont résiduelles. Il y a un troisième type de discours qui pense que bah, c'est normal. Bah, c'est les gens qui pensent que ce qu'on appelle le patriarcat, c'est un système de domination, une espèce de matrice originelle de l'humanité, surplombante, et dont les horizons de sortie sont quasiment en dehors de l'échelle de notre échelle de représentation. Et s'il y a des inégalités, donc c'est parce qu'il existe ce patriarcat, cette domination masculine, et la preuve que la domination masculine existe, c'est qu'il y a des inégalités. Donc, vous voyez, on est sur un raisonnement tautologique. Donc, tous les gens qui dénoncent le patriarcat comme système de domination ne s'étonnent pas du fait qu'il y ait des inégalités, puisque c'est normal, puisqu'il y a de la domination. Or, moi, je pense que c'est pas normal. Enfin, en tout cas, que ça vaut le coup d'être constitué en énigme, puisque ça nous concerne tous, c'est à la fois collectivement et personnellement. Parce qu'on a tous, ou on connaît tous des enfants, enfin, on élève des enfants, il y a des filles, il y a des garçons, on observe le monde social. On partage tous cette histoire, ces questions d'égalité, ces valeurs, et on n'a pas le sentiment, enfin, sauf certains gros machos, etc., voilà, on n'a pas le sentiment de collectivement vouloir faire le contraire, et pourtant on fabrique le contraire. Hein, en tout cas, on fabrique... Voilà. Donc c'était cette énigme qu'il s'agissait de résoudre. Et pour ça, eh bien, il fallait partir de l'idée que on vit un moment historique très précis, très particulier. Et ça, c'est une réponse aussi à ceux qui pensent en termes de domination, parce que quand ils pensent en termes de domination, les dominations sont tellement surplombantes qu'au fond, il n'y a quasiment pas d'histoire. Grosso modo, c'est une réponse à la domination masculine de Pierre Bourdieu, qui nous explique qu'entre le système de domination traditionnelle, patriarcale, des Kabyles, comme archétype de la domination traditionnelle, et la société contemporaine, au fond, il n'y a pas de différence. Hein, donc au fond, le féminisme n'existe pas, le fait qu'on soit passé dans des droits égalitaristes, au fond, ça n'a pas d'importance, tout ça est superficiel. Or, en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Et pour bien comprendre toutes nos ambivalences et nos ambiguïtés intérieures, il fallait le resituer historiquement, ce que Alain Touraine appelait la notion d'historicité, c'est-à-dire qu'il faut réintroduire l'analyse qu'on fait des situations contemporaines dans des dynamiques historiques. Donc tu l'as rappelé, Marion, je pense que effectivement, il y a une matrice originelle, pour autant que nous en racontent les anthropologues, enfin moi je ne suis pas spécialiste, hein, les spécialistes de l'Antiquité, qui serait ce patriarcat traditionnel, cet arrangement de genre patriarcal traditionnel, où effectivement, le patriarcat, il est nécessaire et légitime pour la bonne tenue du monde. Enfin, les mondes cosmologiques, c'est très compliqué. C'est partagé entre des rapports d'équilibre, entre des forces... à la fois symbolique, social, culturel, etc. Donc il faut que le monde tient, comme ils disent dans Astérix, il faut éviter que le ciel nous tombe sur la tête. Et donc masculin-féminin, ça fait partie de ces polarisations. Voilà. Donc c'est un monde qui est hiérarchisé, et dans ces mondes-là, bah, la question d'égalité, les questions de... etc., ne se posent pas. Le masculin et le féminin sont hiérarchisés, c'est comme ça, Et donc, on ne peut pas projeter non plus nos catégories féministes sur ce monde-là. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que ce monde, il a été effectivement percuté par la modernité occidentale à l'échelle du globe. Et qu'à partir de ce moment-là, en tout cas en Europe, s'est construit un patriarcat moderne dont nous sommes les héritiers directs. Non pas parce que ce patriarcat moderne aurait, par définition, il n'a pas rompu avec le patriarcat, mais parce qu'il portait en lui-même cette contradiction intérieure, interne que tu as rappelée. C'est-à-dire, c'est impossible de dire à la fois, dorénavant, on va se libérer de toutes nos assignations, toutes nos différences, etc., parce qu'on est capable de constituer des êtres et des individus autonomes, libres et égaux, et en même temps de dire, ça, on est capable de le faire, mais la différence de sexe, c'est trop fort pour nous, on ne peut pas faire ça. C'est ce que les féministes, évidemment, ont remis en cause, les premières, Olympe de Gouges, Condorcet, enfin, dès le début, en réalité, de la mise en place de cette affaire. Et donc, aujourd'hui, on peut dire, les féministes égalitaristes ont gagné en droit, pleinement, donc on peut dire, le patriarcat a été démantelé. C'est-à-dire que nous ne vivons plus dans un monde où il est nécessaire et légitime qu'il y ait cette asymétrie entre le masculin et le féminin. Ce n'est pas nécessaire, y compris d'un point de vue économique, parce qu'il y a plein de travaux qui ont montré qu'une des vertus du capitalisme, c'est la prolétarisation. Et la prolétarisation, en fait, elle a intérêt à ce que les gens soient dépendants de leur labeur. Donc, au fond, c'est via la salarisation, ça fait accéder les femmes à une certaine forme d'autonomie économique. Très paradoxal, mais on voit bien que les usines, vous savez, au Mexique, là, sur la frontière américaine, tous les ouvriers sont des ouvrières, très mal payées, surexploitées, etc. Mais en tout cas, elles n'ont plus besoin d'un mari pour être autonomes. Donc vous voyez tous ces paradoxes-là. Et c'est plus nécessaire et c'est plus légitime parce que tous les arguments qui légitimaient cette hiérarchie entre le masculin et le féminin, les arguments théologiques ou les arguments naturalistes qui participent encore du sens commun, tous ces arguments ont été déconstruits les uns après les autres. Et donc ce que disent les féministes à partir des années 50 avec Simone de Beauvoir, c'est qu'au fond, cette hiérarchie, cette asymétrie, cette différence tellement précise qu'au fond, elle conduit à faire des êtres différents et donc hiérarchisés, en fait, ce n'est pas du tout une nécessité naturelle, ce n'est évidemment pas une nécessité théologique, c'est une construction politique, c'est un système social, c'est un arrangement de genre qu'il convient de combattre politiquement.
Alors justement, est-ce que justement sur le constat d'une part de l'idée que l'idée d'égalité a triomphé dans la société, est-ce que par exemple on voit que donc toute la controverse qu'il y a eu sur le genre dans l'espace public portée par des mouvements d'essence religieuse qui ont eu des effets sur les actions publiques, sur l'action publique, hein, puisque ces ABCD de l'égalité ont été retirés, est-ce que tu sous-estimes pas est-ce que tu sous-estimes pas l'organisation de ces mouvements, leur puissance et l'attachement très fort, au-delà de ces mouvements, je pense, des individus à l'idée de complémentarité entre les sexes. Et complémentarité, on le sait, ça veut toujours dire différence et hiérarchie. Donc vraiment sur le constat de départ, même si les gens se rallient à l'égalité, on voit bien après, quand on discute, etc., que c'est une certaine vision de l'égalité. Oui. Souvent au nom de la complémentarité. Et je pense qu'il y a par ailleurs des forces sociales organisées, puissamment organisées, à l'encontre de l'idée de l'égalité.
Donc, une fois qu'on admet qu'on raisonne en termes d'arrangement de genre et qu'on peut comparer les divers arrangements de genre, dans l'arrangement de genre patriarcal moderne, celui qui a vu apparaître le féminisme, il y a un certain type de conflictualité, donc certains types d'acteurs. D'accord ? Mais si on considère l'arrangement de genre post-patriarcal en soi, il a lui-même ses propres conflictualités. Donc, il ne faut pas penser l'après-patriarcat comme un monde apaisé, ou comme un monde, mais il a ses propres conflictualités. Et donc, en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inégalité, qu'il n'y a plus de conflictualité. Enfin, ça serait une mauvaise lecture. Au contraire, il faut décrire le plus précisément quelles sont les formes contemporaines de conflictualité. Et donc, je propose, au fond, de distinguer trois types de mouvements culturels qui s'affrontent sur ces affaires aujourd'hui. Le premier courant culturel, c'est un courant culturel dominant. À tel point dominant, au fond, qu'il irrigue toutes les institutions, tout le droit, à l'échelle nationale comme à l'échelle supranationale qu'est l'Union européenne, qui est le principe d'égalité entre les sexes. Donc, par le droit, en droit et par le droit, hein, c'est toutes les politiques de lutte contre les discriminations sexistes, etc., etc. Et là, il y a, c'est d'une puissance extraordinaire. Il y a des injonctions faites aux organisations, aux entreprises, aux systèmes politiques. Il y a des recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, c'est une énorme machine héritière de tout, précisément, ce démantèlement du patriarcat moderne. Alors, ce mouvement culturel égalitariste, moi, je pense qu'il est conservateur. Il est dominant et conservateur. Au sens où, au fond, ce qui lui importe, c'est l'égalité entre les sexes. En faisant l'hypothèse que c'est ça qui est central. Il y a une inégalité entre les sexes, une hiérarchie entre les sexes qui n'est pas légitime, et donc on va déclarer l'égalité entre les sexes. Donc c'est le niveau du droit en droit. Mais ça fait l'économie de la notion de genre. Le genre, c'est un rapport de pouvoir. Ce n'est pas simplement une question de droit, ce n'est pas simplement une question de différence des corps. C'est un rapport de pouvoir qui s'exerce à travers plein de canaux, la culture, l'éducation, les organisations, etc. Et donc, du point de vue de ce mouvement culturel conservateur, il considère que l'essentiel du boulot a été fait et qu'il faut veiller à ce que le droit soit respecté. Sauf qu'on sait que ce n'est pas parce que le droit est égalitariste que subitement les gens deviennent égalitaristes. Donc il est conservateur et il pense qu'il ne faut pas rouvrir la guerre des sexes, par exemple. Hein, donc c'est pour ça qu'en France, même tous les hommes politiques, même à droite, même Chirac, il était égalitariste. Enfin, voilà, il pouvait se définir comme un défenseur républicain de l'égalité. D'ailleurs, les républicains s'inventent une espèce d'invention de la notion d'égalité de genre. Alors ce que je rappelle, c'est que le patriarcat moderne et républicain, il était hyper patriarcal. Hein, il avait juste remplacé Dieu par la nature. C'est les féministes qui ont avancé l'égalité dans la modernité, ce n'est pas la modernité elle-même. Donc on a ce courant qui est dominant. Et puis on a un courant minoritaire qui est un courant réactionnaire. Et qui est un courant d'autant plus réactionnaire qui se rendent compte que de par l'individualisation croissante des personnes qui souhaitent devenir des individus, de par l'élargissement de ce qu'on appelle les répertoires de genre, c'est-à-dire qu'au fond les formes de féminité, de masculinité, comme tu l'as dit, je travaille un peu sur les médias cultures, mais il n'y a qu'à voir les séries américaines, etc. On voit bien que les formes de masculinité, de féminité légitimes, autorisées, voire désirables, elles n'ont plus rien à voir de ce qu'elles étaient dans les années 50. Hein. Donc tout ça, et donc en fait, ils prennent conscience que tout ce qu'ils pensaient fondé, sinon en nature, ou en tout cas en théologie, etc., comme étant nécessaire et légitime comme différence, voire comme inégalité, ils sont en train de se rendre compte que tout ça n'a plus de fondement. Que tout ça, en fait, est complètement remis en cause et qu'ils ne savent plus... voilà. Donc, c'est ce qu'on... Ils produisent des paniques de genre, hein, avec des rétrécissements identitaires, qu'on peut tout à fait comprendre les mécanismes. Mais en tout cas, c'est des mouvements proprement réactionnaires. Et puis, il y a un troisième mouvement culturel, que j'appelle réformiste. Donc, ce mouvement réformiste, en fait, il a compris, d'une part, qu'effectivement, en droit, l'affaire était pliée, on était sortis du patriarcat. Par contre, il y avait d'énormes chantiers sur la manière d'élever les garçons et les filles, sur l'école, les orientations scolaires, sur l'organisation du travail, sur l'organisation de la famille, et qu'au fond, il s'agissait, c'est pour ça que je l'appelle réformiste, il s'agissait d'accomplir cette, tendancielle indifférence au genre des individus, qu'il fallait accompagner son accomplissement par des réformes, et faire en sorte précisément que, comme le disaient les féministes des années 70, bah, le privé du genre, il demeure politique. Voilà. Et donc là, il y a un effet paradoxal, en fait, de cette adhésion aux valeurs d'égalité. C'est qu'il laisse penser, et on a fait une enquête avec Sandrine Ruiz sur les jeunes gens de 20 ans, les filles et les garçons de 20 ans. Ils sont tellement persuadés qu'ils sont égaux. Ils sont tellement persuadés qu'ils sont pareils que la question des différences, au fond, ne porte pas à conséquence. Et puis, ils s'aperçoivent en grandissant que si plus on insiste sur les différences, filles, garçons, féminins, etc., etc., en renvoyant à chacun les gens dans ce type de choses, et plus ça produit des effets sociaux inégalitaires. Et donc là, ils se rendent compte que il ne suffit pas de dire qu'on est égal. Il y a plein de petits mécanismes, y compris internes aux subjectivités, qui continuent. Voilà. Et donc, ce mouvement réformiste, il en appelle à la fois à des réformes, disons, structurelles, c'est-à-dire organisation du travail, famille, etc., et puis un gros travail sur les représentations, sur les imaginaires. Parce que c'est ça, d'une certaine manière, la difficulté aujourd'hui. Il n'y a plus d'ennemis hein, au féminisme. Il n'y a plus de méchants. Hein. Il n'y a plus de méchants. Il n'y a que des systèmes, etc. Alors, les méchants, si, on les connaît. On peut les désigner comme étant des gros machos, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait l'affaire. Et que la difficulté, elle est plutôt intérieure, en réalité.
D'accord. Mais moi, je ne suis pas encore complètement convaincue par l'idée qu'aujourd'hui, la mise en asymétrie du masculin et du féminin, elle n'est plus ni nécessaire ni légitime. Je veux dire, par exemple, tous les travaux de sociologie du travail nous montrent bien que tout le travail du care, tout le travail qui est associé à ce qui est considéré comme féminin est toujours dévalué et que c'est donc légitime d'être dans des boulots sous-payés, exploités, etc. Et en plus, c'est nécessaire à l'organisation économique. Quelles que soient les pratiques, on voit que dès que c'est des pratiques étiquetées comme féminines, je pense par exemple au sport ou le loisir, aux travaux d'Yves Rébeau, où il a cet exemple génial sur le curling qui est complètement méprisé et l'espace public appartient aux pratiques dites masculines et qui sont étiquetées. Et donc je me demandais en fait si plutôt que mise en asymétrie du masculin et du féminin, tu ne parles pas plutôt des hommes et des femmes. C'est l'idée que les hommes et les femmes sont égaux, sont acquis. En revanche, et c'est là la production constante des inégalités, on reste bien dans l'idée que dès que c'est féminin, et notamment en politique, enfin, sur les prises de parole, ok, il y a une loi incroyable, une constitution incroyable, constamment réaffirmée pour affirmer les femmes dans l'espace public, mais qu'on voit dès qu'elles parlent avec des manières de faire associées à ce qui est construit comme féminin, par exemple à partir de la famille, de l'expérience personnelle, de la concrétude, des émotions, oui, et non pas de la raison universelle, c'est complètement dévalué. Oui. Et donc, moi, je me disais que mise en asymétrie, finalement, des hommes et des femmes, ça permet plus de rendre compte...
Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, cette mise en asymétrie. Je dis juste,
moi, je la trouve encore nécessaire,
qu'elle n'est plus légitime. C'est indéfendable.
Dans l'organisation, par exemple.
Oui, mais c'est indéfendable. Mmh. Tu ne peux pas défendre ce principe d'inégalité, de disqualification des femmes, etc. Et ceux qui le font de plus en plus discrètement, de plus en plus subtilement. Quant à la nécessité...
Économique.
Non, la nécessité économique, ce n'est pas, c'est pas un argument, parce que l'économie, au fond, n'a pas de point de vue. Hein. Mmh. Donc... à un moment donné, les discriminations racistes, ça peut être utile à l'économie d'une certaine manière, mais dans un autre contexte, ça pourrait ne pas être utile. Donc, en fait, nécessaire en tout cas à l'économie. Le capitalisme n'a pas de point de vue. Par contre, là où tu as raison, c'est que c'est utile. C'est utile de continuer à faire comme si le masculin et le féminin, c'était tellement différent que ça devait être hiérarchisé. C'est totalement utile. D'ailleurs, on explique comme ça les raisons pour lesquelles il y a des discriminations. Mais il y a une autre dimension... Mais on n'est ni dans la légitimité, ni dans la nécessité, qui est que nous continuons d'être empêtrés dans des représentations du masculin et du féminin, des hommes et des femmes, qui, elles, sont directement héritières du patriarcat, mais sous des formes qui ne sont pas des formes, disons, classiquement patriarcales, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de les cerner. Je donne juste un exemple qui, tiré de cette étude qu'on a fait avec Sandrine Rouy. C'est que quand on est à une époque patriarcale, il va de soi que les garçons et les filles ont des destins sociaux qui vont être différents. Et ces destins sociaux, non seulement vont être différents, mais on sait qu'ils vont être hiérarchisés. Donc on va socialiser les garçons et socialiser les filles à se préparer, en fait, à ces rôles et à ces statuts sociaux différents. Maintenant, quand vous êtes dans un arrangement post-patriarcal, plus personne ne peut défendre cette idée. Et aucun parent, au fond, ne souhaite que, parce qu'on a une fille, on va l'élever de telle manière, comme ça, elle n'aura pas les mêmes chances que son frère. Ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est pas, maintenant, c'est pas le cas. Bon. Et pourtant, on continue de les élever de manière tellement différente... sous des formes qui n'apparaissent pas comme étant brutales, comme étant etc., mais qui ont des effets de production d'inégalités. Je résume en deux mots pour vous montrer à quel point au fond c'est passé dans les, c'est pas problématisé. Enfin, c'est pas. Tu l'as dit, les garçons, on leur accorde dès la naissance un espèce d'égocentrisme légitime. En fait, voilà, ils viennent au monde comme on vient en début de jeu vidéo. On a une petite dotation. Cette dotation, c'est cet égocentrisme légitime. Et au fond, on attend d'eux, on leur montre qu'on attend d'eux qu'ils aient des projets, qu'ils soient des entrepreneurs. Alors, quel que soit le domaine, jouer de la guitare dans son garage ou faire des brillantes études, etc. etc. Mais l'idée, c'est qu'ils aient des projets. Et les garçons, il faut qu'ils aient des projets. On attend ça d'eux. La masculinité, donc, c'est plus une masculinité viriliste, machiste, etc., caricaturale, patriarcale, tout ce qu'on voudra. C'est uniquement ça, c'est centré sur le projet. Et le projet... qui permet aux garçons d'avoir cette tranquillité dès lors qu'ils rentrent dans cette idée de projet. L'idée, c'est qu'on ne les fasse pas chier. Quoi. Voilà. Par contre, les filles, c'est l'altruisme obligatoire. Donc, elles sont plongées dans un nœud relationnel où en permanence, on doit s'occuper des uns des autres. On est dans les jugements, dans les paroles, la circulation de la parole. C'est très bien du point de vue des compétences sociales, qui va manquer aux garçons, d'ailleurs. Ce qui fait que les garçons, aujourd'hui, de ce point de vue, sont vulnérables quand les choses deviennent plus compliquées que prévu. Mais du coup, les filles, elles sont engluées. Bon, et donc, ça produit des estimes de soi qui ne sont pas exactement les mêmes. Ça produit des... Enfin, voilà. Donc, personne, évidemment, ne voit malice dans ces formes différentes d'élever les enfants. Sauf que là, alors, pour le coup, voilà, c'est la non-réflexivité. Et lorsque tu parlais de l'ABC, de l'égalité à l'école, lorsque précisément on dit que là, il se passe quelque chose et que ce privé mérite d'être transformé, sinon en politique, du moins en matériaux pédagogiques, là, on voit toutes les réactions qui sont produites parce qu'on sent bien que si on touche à ça, alors oui, tout l'imaginaire, toutes les idées qu'on avait de bon sens ou de sens commun sur ces affaires, au fond, sont remises en cause. aussi puissamment, d'une certaine manière, que lorsqu'a été remise en cause la nécessité et la légitimité du racisme. Hein, c'est vraiment de cet ordre-là.
Alors, je pense que pour la clarté du débat, c'est utile que tu reviennes sur cette prise de position, voilà, pour aller vite contre la domination et pour le pouvoir. Moi, il me semble que quand même, les approches, donc dites foucauldiennes, hein, les critiques foucauldiennes de la domination, donc notamment les représentations, les discours, l'intériorisation, la discipline des corps, etc. Ces critiques ont quand même sauvé la domination à travers l'idée de technique de domination. Est-ce que tu décris alors notamment le rôle des stéréotypes, mais je trouve qu'il y a des bons passages aussi sur le rôle de la consommation, puisqu'on voit bien que notre rapport au monde ordinaire, c'est beaucoup la consommation, puis on voit bien l'utilité de produire des habits pour les filles, des pour les garçons, des vélos pour les filles, des garçons, etc. Et c'est plutôt, voilà. Est-ce que c'est pas des techniques de domination en général? Et je trouve que sur un mot qu'il n'y a pas du tout dans ce livre sur l'après-patriarcat, ou dès qu'on parle de patriarcat, quand même, c'est l'idée de privilège, et de privilège des hommes, et de privilège des hommes quand même sur cette exploitation domestique, ou ce travail non rémunéré, ou ce travail du care, qui est aussi un travail très fort mental de gestion des agendas familiaux, etc. Et est-ce qu'on peut, on voit bien que la question du travail domestique, elle est importante pour toi, mais est-ce qu'on peut justement pointer les inégalités au travail domestique et tout ce que ça produit sans parler de privilèges et du coup sans parler de domination? Donc il y a un peu deux questions, et je trouve que tu as quand même finalement assez de mal à te débarrasser de domination. Domination, ça revient assez souvent, notamment sur les dominations ordinaires, tout ça. Donc ma première question, c'est est-ce que finalement tu n'intègres pas les critiques foucauldiennes, n'étaient pas dans les techniques de domination? Et puis deuxième sous-question, quid du privilège des hommes dans l'après-patriarcat qui demeure quand même, qu'on le veuille ou non?
Bon, je commence par la dernière parce que c'est la plus simple. Il y a, comment dire, quand on est en situation d'inégalité, portée par des formes de socialisation, d'imaginaire, etc., il suffit, pour ceux qui bénéficient de cette inégalité, il suffit de pratiquer la politique de l'inertie. C'est ce que Jean-Claude Kaufmann montrait sur l'économie domestique, etc. Donc, ils ont éventuellement des privilèges, mais ce n'est pas des privilèges qu'ils défendent. Il leur suffit de rien faire.
C'est ça.
Voilà. Et alors, la difficulté, évidemment, Kaufmann l'a bien montré, c'est que si les filles ne sont pas contentes de l'inégal partage des tâches domestiques, il faut qu'elles ramènent leurs fraises en permanence, donc du coup elles deviennent désagréables, donc du coup elles remettent en cause la relation, enfin c'est compliqué, voilà. Donc ça c'est, oui, c'est du privilège, mais c'est pas un privilège qui est, enfin c'est un privilège dont, qui est fabriqué comme ça, mais il n'y a pas d'intentionnalité, et dès lors que ça peut être remis en cause, il y a des couples qui décident de s'organiser autrement, parce qu'effectivement ils pensent que c'est un vrai enjeu, voilà. Par ailleurs, sur les discriminations et sur les privilèges masculins, il y a une utilité de la discrimination. Il y a une utilité du maintien et du développement des situations permettant des discriminations. Ça, c'est vrai. Dans le maintien des privilèges, toi qui es spécialiste de la politique, tu vois bien que la résistance qui a été faite à la loi sur la parité, elle était clairement utilitariste, parce qu'il en allait de la remise en cause des privilèges des hommes jusqu'à présent en politique. Donc ça ne remet pas en cause le fait que, oui, il y a des privilèges, mais ce n'est pas des privilèges qui sont accordés par un système, hein, qui, voilà, ça se fait, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça reste à l'échelle privée, hein, ou est-ce que c'est transformé en matériaux ou en un point d'appui pour des formes de discussion plus critiques? Et sur la question de la domination, bon, alors c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein, c'est-à-dire que j'inverse complètement le raisonnement. Enfin, ce que je propose, c'est d'inverser le raisonnement, et ça me semble que c'est plus intéressant. C'est que quand on parle de domination, souvent, on s'imagine une domination qui serait en haut, surplombante, et qui descendrait par mille canaux, à travers mille formes d'exercice de pouvoir, et qui saisirait jusqu'aux subjectivités des individus, qui seraient à ce point dominés, qui ne se rendraient pas compte qu'ils sont dominés. Donc là, c'est le pompon. Quand les dominés ne se rendent pas compte qu'ils sont dominés, c'est que la domination est totale, ça marche bien, pas de problème. Donc on voit bien que là, dans ce raisonnement, la domination, c'est complètement objectif. Et ce qu'on a à la fin, c'est des subjectivités en tant qu'elles sont mystifiées. Donc au fond, la subjectivité ici, elle est le reflet d'une domination, et donc elle est impotente. Donc le sujet est impotent. C'est le paradoxe d'ailleurs de ceux qui dénoncent le plus fort la domination, et qui ce faisant font la preuve que les dominés sont complètement incapables de toute action. Ça aide pas. Et alors il y a une autre manière de faire, qui est de dire, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche, et moi je pense qu'elle est plus sociologique, qui est de dire, au fond, il n'y a pas d'organisation sociale, il n'y a pas de société sociale sans rapport de pouvoir. Les rapports de pouvoir, ils sont constitutifs du réel. Voilà. Donc c'est ça qui est objectif. Ce qui est objectif, c'est les rapports de pouvoir. Voilà. Alors après, ces rapports de pouvoir, et ça renvoie à la mauvaise traduction, me semble-t-il, qui a été faite de la notion de domination chez Max Weber. Max Weber, quand il parle de domination, en fait, il parle de consentement à l'autorité. Donc il y a des rapports de pouvoir, mais sinon on ne pourrait pas fonctionner. Il y a des hiérarchies, il y a des gens qui... Voilà, ok, d'accord. En permanence, tout le temps dans notre vie. On ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. Hein, il y a des règlements, il y a des trucs. Bon, voilà, c'est normal, c'est comme ça. Mais la plupart du temps, on a un consentement à cette autorité, à ces formes de hiérarchie, à ces formes d'organisation. Parce qu'on considère que ça nous simplifie la vie, parce qu'on considère que... voilà, bon. Mais en même temps, à certains moments, on peut considérer que la manière dont ce pouvoir s'exerce, la manière dont ces hiérarchies sont construites, la manière, etc., eh bien, on peut considérer que ça va, au contraire, on peut le vivre comme, non pas simplement de l'autorité nécessaire, du pouvoir nécessaire, mais comme des formes d'humiliation, comme des formes d'oppression, comme des formes... voilà. Et donc, apparaît à ce moment-là, quoi ? Ce qui me semble fondamental, c'est le sentiment de domination. Vous voyez, j'inverse complètement le raisonnement. Ce qui est objectif, c'est le rapport de pouvoir. Ce qui est subjectif, c'est le sentiment de domination. Et le sentiment de domination, alors que lorsqu'on la domination était surplombante, au fond, c'est ce qui faisait que les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dominés. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que le sentiment de domination, c'est le premier moment où on est capable à ce moment-là. C'est le point d'appui qui va faire qu'on va... résister ou contester ou contourner des formes d'exercice du pouvoir dont on finit par considérer qu'elles ne sont pas acceptables.
Je pense que c'est important d'avoir un petit regard sur le chapitre 5, sur donc les sociétés extra-européennes, puisque donc effectivement, moi je connais assez mal hein, les sociétés musulmanes, etc. Voilà, en quoi, par exemple en Arabie Saoudite, il y aurait là aussi des arrangements de genre percutés par la modernité, en quoi ce patriarcat ne se recomposerait pas constamment à l'identique avec des forces politiques hyper vivaces en ce sens-là.
En deux mots, mais ce n'est pas compliqué en fait. On a comme matrice commune hein, cet arrangement de genre patriarcal traditionnel, à fondement théologique, cosmologique, enfin, tout ce que vous voulez, etc. Il y a cette percussion par la modernité occidentale qui s'exerce, cette percussion, elle a des effets d'abord en Europe, évidemment. Et le passage du patriarcat traditionnel au patriarcat moderne se fait en Europe. Mais comme vous le savez, la modernité occidentale ne s'en est pas tenue à l'Europe, et pour plein de raisons qu'on peut expliquer, elle a eu des effets mondiaux. Voilà, c'est sans doute une des premières fois qu'on a des conséquences mondiales, donc plus aucune société n'a pu échapper à l'emprise occidentale. Et donc, à partir entre le XVIe et le XVIIIe siècle, via la colonisation ou la résistance à la colonisation, parce qu'il y a des nations qui n'ont pas été colonisées, mais qui ont été tout autant modernisées que les autres. Les meilleurs exemples, c'est la Turquie ou le Japon. Donc, on n'a plus de société traditionnelle, on n'a plus de patriarcat traditionnel, mais qui ne sont pas pour autant des patriarcats modernes, parce que ça, c'est vraiment l'histoire intérieure de l'Europe. Donc, si ce n'est pas des patriarcats traditionnels, si ce n'est pas des patriarcats modernes, c'est des patriarcats modernisés. En fait, sur une base traditionnelle, percussion, et donc ils se modernisent, et donc ça veut dire qu'ils deviennent incohérents. C'est-à-dire que dans certains plans, il y a une espèce de continuité, de maintien d'un patriarcat traditionnel. Sur d'autres plans, mais c'est tout le paradoxe de la colonisation, qui en même temps assujettit, asservit, etc., et puis produit une élite à qui elle donne les clés, en fait, de la révolution. C'est exactement... C'est Ho Chi Minh, enfin, c'est tous les révolutionnaires algériens, tous les révolutionnaires colonisés, ils sont le produit de la colonisation. Enfin, voilà, donc, et c'est pareil pour les rapports de genre. La capacité à dénoncer le patriarcat moderne avec les outils même de la modernité, c'est un effet de la colonisation. Donc ce patriarcat devient modernisé une première fois par la colonisation, il devient remodernisé par les indépendances nationales, qui la plupart du temps se font sur des modèles socialistes. Et que je sache, les modèles socialistes de construction de l'État, etc., c'est pas traditionnel. Et il est remodernisé une troisième fois par ce moment de globalisation, de circulation culturelle, etc. Aujourd'hui, tout le monde est sur YouTube, machin, etc. Enfin, la télé, le cinéma, etc. Donc, comment qualifier ? Donc, en aucune manière, on peut dire que les arrangements de genre extra-européens sont des arrangements traditionnels. Ça n'a aucun sens. Et pour aller plus loin que cette idée qu'ils soient modernisés, parce qu'il y a un espèce de... Voilà, j'ai trouvé chez Paul Gascon, qui est un sociologue, sociologue qui a travaillé beaucoup sur justement la société marocaine, et il dit, bon, la société marocaine, c'est pas moderne, c'est pas traditionnel, etc. elle est composite. Composite, c'est-à-dire qu'au fond, il y a de multiples ajustements et désajustements. On ne peut pas aller plus loin que de dire qu'elle est composite parce qu'elle n'est pas cohérente. Et ça crée plein de frictions, plein de tensions, etc. On le voit aujourd'hui avec l'affaire autour de ce film, hein, sur la prostitution, avec la dénonciation de la schizophrénie des Marocains qui, en réalité, savent que leur pays est composite, mais dans l'imaginaire, voudraient qu'ils se présentent de manière vertueuse. Enfin bon, voilà. Donc, au fond, l'idée, c'est que si on sort du modèle type idéal Union européenne, ça concerne aussi des sociétés comme les États-Unis, comme le Japon, parce qu'il n'y a pas cette cohérence par le droit supranational, l'Union européenne, c'est très puissant. En fait, on a affaire à des arrangements de genre composites, alors très différents. Encore une fois, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Turquie, en Tunisie, au Japon, c'est pas pareil. Et donc, il faut décrire ces différences et voir comment les mouvements de repatriarcalisation, parce que c'est ça quand même, et les mouvements de dépatriarcalisation, au fond, rentrent en friction et en faire la description la plus fine possible.
Nous vous remercions hein, de votre attention. Éric va signer les livres ici. Nous vous remercions de votre attention méritoire par 30 degrés. Et à bientôt alors.